grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 20 février 2015. Bienvenue à cette émission. Un grand dialogue consacré aujourd'hui au Forum de la presse. Le rendez-vous donc avec nos confrères de la presse. Aujourd'hui, nous aurons trois thèmes. Si tout va bien, nous aurons l'occasion de toucher du doigt la conférence de Bruxelles qui a octroyé donc de l'argent au Mali. Nous allons venir dans la première partie, encore une fois, sur les pourparlers d'Alger. Et ensuite, nous verrons si nous pouvons faire le point sur la migration au Mali. Pour l'instant, nous avons trois invités. Hakim Maïga de la Nouvelle République, Dramana Loukone, président de la Maison de la Presse, mais également directeur de publication du journal L'Indicateur du Renouveau, et Makan Konaté de la radio Maliba FM. Je suis Famoussa Sidibé. Merci à vous, messieurs, de votre présence. Petit Ndiara est à la mise en onde. La cessation immédiate de toute forme d'hostilité, c'est pour l'instant la seule chose concrète obtenue à Alger, et cette déclaration a été signée entre les partis et le gouvernement du Mali. Six groupes armés donc, et en plus du Mali, ont signé donc cette déclaration à Alger. Alors nous allons voir avec nos invités ce que cela représente aujourd'hui aux yeux à la fois de la communauté internationale et sur le terrain. Qu'est-ce que cela représente concrètement?
Merci, je remercie les auditeurs de Sujet Tamani à travers ses partenaires. Bon, je crois que c'était un préalable qui s'était posé. Je me rappelle que vendredi et jeudi soir, on a signé ce cessez-le-feu entre les mouvements armés et le gouvernement malien. Je ne suis pas d'accord, parce que du côté malien, on n'a pas fait une attaque depuis plus de 6-7 mois. Ce que vous dites, nous n'étions pas impliqués, c'était une guerre inter-ethnique à la limite. Voilà. Maintenant, ils ont signé ça. C'était un problème qui a été posé par le maire et ses alliés. Dans un premier temps, les gens n'étaient pas d'accord pour faire un préalable, parce que notre ministre de l'Étranger avait même dit que ce n'est pas un préalable qui devait bloquer le processus de négociation. C'est déjà fait. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Et ça a aussi témoigné d'une implication d'un nouveau groupe. Parce que pour la première fois, le Gatcha a été considéré comme partie prenante du processus pour parler d'Alger. Or, jusqu'à présent, du côté d'Alger, surtout l'État algérien ne voulait pas parler de Gatcha, parce qu'ils disent que déjà c'est un nouveau protagoniste qui va alourdir le processus. C'est le mot que le ministre des étrangères de l'Algérie avait dit. C'est un grand pas qui a été franchi hier, mais nous attendons de voir sur le terrain si cette signature va avoir un impact réel sur le retour de la paix et du calme au nord. Mais déjà, et ce soir, j'ai appris que les choses vont très vite, et on espère avoir un préaccord vers le mercredi. Tout ça est beau, tout ça est bon, mais je suis sûr que ce qu'on va signer à l'Alger sera à compter l'adhésion des populations d'une part et d'autre part. Parce que ce qu'on a constaté, tout ce que les gens du MLA et ses alliés disent à Alger, ils ne rendent pas compte aussi à la population locale. Et c'est pourquoi il y a toujours un décalage entre ce que la population attend pour parler et ce que les uns et les autres s'engagent à faire à la communauté internationale. Mais ce qui est important, il faut le signaler, le préalable qui a été posé par certains est déjà levé, il faut aller au fond. Et je pense que le ministre malien, Zahabi, a été clair. Aujourd'hui, on peut parler pour parler, on veut des discussions franches, directes et efficaces. Je pense qu'on va aller à l'essentiel à partir de demain matin.
D'accord. Alors, une déclaration de cessation immédiate de toute forme de violence, Makan Konaté, qu'est-ce que cela représente à vos yeux?
Je vous remercie. Et je préfère dire d'abord que ce n'est pas les forces armées et de sécurité du Mali qui ont commencé, ou bien qui continuent à ouvrir le feu. Aller vers un cessez-le-feu, c'est demander plutôt au MNLA et à ses alliés d'arrêter leurs crimes contre les populations civiles et désarmées, premièrement. Donc, deuxièmement, le Gatcha, je le dis aujourd'hui, est beaucoup plus légitime que le MNLA, parce que le Gatcha est composé de plusieurs mouvements et qui sont représentatifs au sein de la population du Nord. Donc, le Gatcha est légitime et sa place se justifie bel et bien à Alger. Maintenant, demander un cessez-le-feu et aller vers de nouvelles bases, le Mali a toujours demandé des négociations franches, des négociations très claires. Et le Mali a toujours manifesté sa bonne foi pour aller vers la paix. Mais comme l'a dit effectivement Draman, on signe quelque chose aujourd'hui et demain, vous verrez que le MNLA trouve le contraire. Et tant que Yad Agali, qui est un des cerveaux et qui est en perpétuelle communication avec ceux qui sont là-bas sur le terrain,
notamment le SCUA.
Voilà. Et tant qu'Yad Agali reste toujours en mouvement, bon, il est fort possible qu'il influe encore sur la bonne marche des négociations. Encore une fois, il faut le dire, la ligne rouge tracée par les autorités maliennes reste toujours respectée, en tout cas par le chef de la délégation qui est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et ses camarades. Donc cette ligne rouge-là, à présent, n'a pas été franchie. Et à présent, nous avons bon espoir qu'on peut aller rapidement vers la paix.
Mmh. Hakim Maïa, vous êtes du journal La Nouvelle République.
Bien sûr, cet accord de cessation des hostilités, c'est une bonne chose. Mais nous attendions, parce que le MNLA qui le demande aujourd'hui, c'est ce même MNLA qui a engagé tous les accrochages qui se sont passés. Et malheureusement pour eux, ils n'ont gagné aucun. Donc c'est normal, nous allons, comme l'a dit les autres, nous verrons ce qui se passera sur le terrain. Si ça va s'expliquer ou pas. Mais tout compte fait, ce n'est pas de petits accords dont on a besoin. On a besoin de paix véritable. Et le MNLA, c'est nous autres, nous le considérons comme une agence de communication pour IAD et autres d'ACMI.
Alors, avant d'en venir à cette petite victoire de la médiation aujourd'hui, est-ce que les défections que l'on constate depuis quelques jours, Draman Aloukone, d'abord de Mohamed Almedou Ramadan, si je ne m'abuse, donc de Ali Idriss Ould Hamaha et de Mohamed Atayer Ag Mohamed Elmedi, de la coordination, est-ce que ces défections sont de nature à affaiblir la coordination?
En fait, ces gens, en réalité, il faut se dire la vérité, c'est les gens qui ont fait eux-mêmes ce combat-là sans aucune conviction réelle d'aller vers l'indépendance ou l'autonomie.
On parlait du MNLA?
Du MNLA, des gens, des marchands d'illusion, des gens qui veulent se servir d'une cause pour se faire une place au soleil ou autre chose. Parce que quand on parle même les différents leaders du MNLA, je me rappelle d'un cas, Moussa Aziz, pendant 2-6 mois, il a cherché à rencontrer l'ancien président de la République parce qu'il était chômeur à Paris. Le MLA était une raison pour eux, c'est fait. Tout ce qui s'est passé, finalement, ça a échappé. Hein. L'arrivée des terroristes, tout ça, là, ça l'a échappé. Aujourd'hui, le conseil est clair. La communauté internationale est fatiguée. Et le MLA aussi est très fatigué parce que financièrement, ils n'ont plus de pouvoir de fonds. Militairement, ils sont affaiblis. Et aujourd'hui, sur le terrain, ils ne présentent rien. Et ceux qui sont on brûle le flair, on comprend que le vent est en train de changer de direction. Il faut être du bon côté. Et le bon côté aujourd'hui, c'est côté des autorités maliennes. Et surtout que pour la France, il faut oublier cet aspect. Le seul dossier sur lequel Hollande peut encore se faire des points, c'est le dossier malien. Et il a été clair, il veut boucler ça avant 6 mois. C'est-à-dire que désormais, ceux qui ne vont pas être dans la logique de la paix, des pourparlers, seront considérés comme des ennemis de la les amis comme les terroristes, et je pense que personne ne veut être dans la ligne mérite de la France. En réalité, c'est des gens qui sont très irréalistes. À chaque fois qu'ils se rendent compte que le rapport de force a changé en fait d'un cas, ils sont dans ces cas-là. C'est pourquoi c'est vrai qu'ils font chaque fois, à la limite, c'est réjouir de leur défection. Ils vont venir ici aujourd'hui, quand les choses vont prendre le tournure, tu les verras de l'autre côté. On a l'habitude de ça depuis 20 ans. J'espère que c'est sûrement le plus important, à mon avis, et qui va changer la donne, c'est l'engagement de la communauté nationale à accompagner le processus de paix. Pour une fois, on va s'attendre seulement à signer les accords. Il y aura un comité qui va veiller sur l'application des différents points d'accord. Je pense que le plus important aujourd'hui est ce qui va changer la donne pour notre pays. Sans cela, moi je pense qu'avec ces gens comme ça, tu vois, c'est 1000 accords. Tant que leur intérêt, personne ne sont pas pris en charge, ils vont faire défection et ils tournent contre leur patrie.
D'accord. Alors, les défections, Magan Konaté avec vous de la radio Maliba, FM.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cela quand il y a défection, parce que c'est des gens qui sont venus avec armes et bagages, avec leurs combattants également. Donc, nous pensons que c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais également insister sur le côté, malheureusement, de la France, hein, parce que cette crise il va falloir que les Français disent carrément la vérité au MNLA. Parce que ce mouvement a été créé par les Français. Ce mouvement a été armé par les Français. Et maintenant, il est temps que cela cesse. Il est temps que cela cesse. La MINUSMA s'est permise de tirer sur des populations civiles. La MINUSMA s'est permis de signer des accords, un accord avec le MNLA, et signé par un général français.
Accord retiré.
Qu'on a retiré, mais qui a été fait et à l'insu des autorités maliennes. Donc, vraiment, il y a des questions que l'on se pose sur vraiment la sincérité de la France quant à la gestion de cette crise-là. Et si la France est vraiment de bonne foi, et si la France est vraiment décidée à ce que cette guerre-là prenne fin, elle peut le faire dès aujourd'hui. D'accord. Donc, il va falloir dire carrément la vérité.
Hakim de la Nouvelle République, le journal de la Nouvelle République, des défections constatées au sein de la coordination.
Bon, généralement, les défections, c'est une bonne chose, mais il faut revenir à la réalité, parce que ces gens-là ont défait, parce que ça ne va plus dans leur rang. Donc, il faut être vigilant, il ne faut pas que les mêmes choses se reproduisent. C'est les mêmes gens, Guimi, le rebelle, tout ça, ils sont là, logés, nourris, blanchis par l'État. Il faut arrêter ça, parce qu'ils ont quand même commis des crimes. Donc, ils doivent répondre. Sinon, au Mali, ça va être la même chose. Tu commets des crimes, il y a de l'injustice. Et après, tu viens, tu es du côté du Mali et tout le monde est content. Non. Ensuite, Maka a rappelé qu'ils sont venus avec armes, bagages, hommes. On n'a pas la preuve.
Non.
On n'a aucune preuve de cela. C'est des feux annonciateurs. Sinon, ils n'ont personne derrière eux, ces gens-là.
Mais puis, moi, je vais aussi réagir au propos de Maka. Moi, il est temps. Aspect, il faut tirer toujours la leçon de ce qui se passe. La France a ses intérêts. Comme l'a toujours dit De Gaulle, on se rappelle tous que De Gaulle a décrété il y a plus de 50 ans, la France n'a pas des amis, elle a que les intérêts. Il faut que nous soyons là aussi pour veiller sur nos intérêts. Le cas de l'accord qu'ils ont, l'accord éphémère qu'ils ont signé avec le MLA sur Tabakor, au bout de deux jours, ils ont retiré. Pourquoi? Parce que les Maliens ont exprimé de manière violente l'opposition. Il faut que nous soyons là aussi, chaque fois qu'il y a, je ne parle pas des autorités, je parle de la population, je parle de la société civile, qu'on soit très attentif à ce qui se passe. À chaque fois que les choses ne vont pas dans le bon sens, que nous soyons là pour mettre le rôle là. Et ça, c'est notre devoir. Je pense que si on pense que la France vient, c'est l'arme de salut, pour venir la guerre à notre place et s'en aller comme ça, on s'étrape lourdement. Et il y a aussi notre santé qui est engagée, autant de la presse que les membres de la société civile. La France est là pour ses intérêts d'abord. Et tant qu'on n'aura pas compris ça intégré dans notre démarche, on ne s'en sortira pas. Ce qui s'est passé à Gao est très courageux et ça nous donne l'espoir que les Maliens peuvent se poser à n'importe quelle force étrangère.
Je crois que nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notre page Facebook, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Aujourd'hui, nous parlons de pourparlers d'Alger. Si nous avons le temps, nous allons également parler de la rencontre de Bruxelles sur cette donation envers le Mali et également sur un mot sur la migration au Mali. Mais pour l'instant, nous continuons avec les pourparlers d'Alger. Le respect de la déclaration signée entre le Mali et les 6 groupes armés et également l'influence de Yad Agali sur le processus. Alors, Dramane Alou, quelle pourrait être, tout le monde craint, c'est l'influence, la présence de Yad Agali et son influence sur le processus. Quelle pourrait être la menace aujourd'hui que Yad pourrait peser sur le processus?
Je pense que c'est vraiment, comme on dit, tout est public. Il y a de vue de la crise du Nord, et c'est ça qu'il existe. C'est un homme qui veut se mettre en avant. Malheureusement, dans la configuration qui a après le 2 mars 2012, il n'a pas pu avoir la place qu'il voulait. Mais il y a aussi un fait nouveau. Pour la première fois, je pense que selon les informations qu'on a, la France est claire et la force du Balkan aura, dès qu'elle aura le rejoint, elle va éliminer physiquement Yad Agali. C'est une première parce que le Conseil général, il n'y a pas de paix à Kidal sans avec la présence de Yad Agali. Et déjà, depuis 2 ou 3 semaines, il a une terreur grave, une terreur énorme sur les gens à Kidal. Personne ne peut se réunir. Il n'y a plus de regroupement à Kidal parce qu'il y a quand même mis des menaces contre tous ceux qui vont se regrouper autour d'une question de retrouver avec le Mali. C'est le mot qu'il a utilisé. Il n'y a pas de retrouver entre le Mali et Kidal et tant qu'il sera en vie. C'est pourquoi depuis 2 ou 3 mois, la force Barkhane, je crois que Barkhane est dans la logique de l'éliminer physiquement parce qu'on est sûr d'une chose. Sans que, tant que ce monsieur va continuer à errer entre l'Algérie, la Libye et le nord du Mali, il n'y aura pas de paix. Mais il y avait un petit problème, il faut se souligner, c'est la position algérienne sur la question. L'Algérie joue un jeu très dangereux. Yad Kame est connu être un pion de l'Algérie et c'est là-bas qu'il se réfugie à chaque fois qu'il y a une attaque contre lui au Mali. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sincérité sur tous les partenaires qui sont impliqués dans le processus de sortie de crise au Mali. Mais je pense que du côté de l'Algérie, cette sincérité n'est pas évidente et c'est pourquoi Yad continue à. Son homme continue à planer sur le pourparler. Et j'espère que d'ici quelques ans, quelques temps, qu'on ait l'occasion de l'abattre, ces messieurs-là. Mais tant qu'il continue à vivre, il y a toujours des tensions entre les communautés au nord. C'est ce qui décide, ça, il vit.
Alors, Makan Konaté, de Maliba FM.
Effectivement, je pense que Yad est un vrai danger pour la suite des négociations. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Les représentants des mouvements armés qui sont à Alger sont là-bas, mais leurs familles sont connues au nord. Donc, il met la pression sur eux. Si jamais vous allez signer quelque chose qui n'est pas favorable, alors vos familles, vos différentes familles vont avoir des problèmes. Donc, moi, je pense qu'il va falloir sécuriser d'abord les différentes familles des représentants des mouvements armés qui sont là-bas, qu'ils aient la certitude que leurs familles sont sécurisées et ensuite pouvoir négocier tranquillement. Yad aujourd'hui est aux abois. L'Algérie, je crois, a manifesté sa bonne foi et est même en train de boucler. Parce que
Mais là, c'est monsieur.
Oui. Là, aujourd'hui.
Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son.
Il était clair.
J'ai pas fini.
Le monsieur, il est entre Kidal, l'Algérie, le côté algérien, et le nord de la Libye.
La frontière algérienne a eu du mal à sortir de la bouche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que aujourd'hui l'Algérie peut clairement s'afficher en disant nous ne sommes pas concernés?
Vous savez, contrôler ces différentes frontières-là, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est très large et vaste.
Mais ce n'est pas l'Algérie, hein, c'est un pays très policier.
Mais aujourd'hui, je dis, Yad est aux abois parce que Yad est en train, entre effectivement, surtout vers la Libye. Je crois qu'il migre très généralement vers la Libye. Mais il n'ose plus s'hasarder à aller vers l'Algérie. Donc, il est conscient du danger qui pèse sur
lui. Il ne peut pas aller à l'Algérie sans passer par la Libye, sans passer par l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est l'un des pays les plus sécurisés en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont des moyens de détection très importants. S'il veut abattre ce monsieur-là, c'est à la minute. Et ça, là où il s'est pour faufiler, il se cache, là, il faut pour aller en Libye. C'est, bon, à la limite, c'est un agent au service des généraux algériens, il faut le dire. Si la conjoncture actuelle impose à l'Algérie de changer sa position, tant mieux. C'est pour l'instant, je pense que l'Algérie offre sa protection à ce monsieur.
Mais Draman, qu'est-ce qui vous prouve que l'Algérie, Yad Agali, ne bénéficie pas également de la couverture de la France, compte tenu de son implication dans la libération du dernier otage? Parce que, bon, voilà, il y a ça aussi.
Non, on peut s'interroger.
La libération est en fait.
On peut s'interroger, mais c'est le plus important aujourd'hui. C'est sur l'Algérie que le gars vit. Totalement. C'est, il y a 2 ou 3 semaines, il est venu vers Kidal, mais c'est sûr, sa retraite est en Algérie, et tout le monde le sait. Je pense que l'Algérie veut combattre illégalement. Ce monsieur, il n'y a aucun problème.
Encore faudrait-il le prouver, parce que l'homme est très malin. Encore faudrait-il le prouver.
Ce point de vue est compris. Hakim, votre avis sur la présence d'Yad?
Mon avis sur ça, si tu vois que l'homme de Yad plante sur nos pourparlers, c'est parce que nos partenaires ne sont pas sincères dans les collaborations. Il s'agit de Barkhane, de MINUSMA, de l'Algérie, etc. Sinon, Yad, comme l'a dit Adraman, c'est une affaire de quelques minutes. On sait là où il est et on peut le débusquer. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est pour parler là, il faut que ceux qui sont là-bas à Alger sachent que le dernier mot revient au peuple malien. Il faut qu'ils le sachent.
Ils le savent.
Alors, Dramanalou, cette petite victoire de la médiation pour le moment, est-ce qu'on peut qualifier cette signature de petite victoire de la médiation?
Non, en fait, ce qui est sûr, là, ça va quand même. On est en train d'enlever. C'est un prétexte. C'est un prétexte que certains voulaient avancer pour bloquer les pourparlers. C'est peut-être qu'ils ne tiennent plus la route. Aujourd'hui, on a signé le cessez-le-feu sur l'ensemble de la partie du nord du Mali et vers le fond du dossier. Parce que depuis 3 jours, depuis le mardi, on a fini avec l'audition des différentes parties. Il fallait aller directement aux discussions entre les différentes parties et aboutir à un prix d'accord. Malheureusement, pour les questions, bon, stratégie, je crois que comme il l'a dit, parce que c'est important, il faut le dire, même lors de l'avant-dernier round là, les chefs du YACN n'étaient pas là, parce qu'il y avait fait une menace. De régler le compte. Donc aujourd'hui, c'est que la paire aux ventes qui sont là-bas. Mais il faut aujourd'hui qu'on se dise la vérité. Si c'est le jeu est clair, soit on a la possibilité pour parler d'Alger, soit on a que on est dans l'autre camp. Et l'autre camp, c'est quoi? C'est le camp des terroristes. Pour l'instant, on peut dire seulement que la mobilisation a pu déblayer le terrain vers la discussion
de fond.
Mais pour l'instant, on ne peut rien dire. Quant à ces succès-là. Bah, tout ça dépendra de l'accord vouloir qu'on aura dans une semaine. Si on peut mal le faire, parce que c'est ce qu'ils disent. Je viens d'apprendre des gens en Algérie qui ont dit que les choses vont aller très vite et que désormais, on compte sur mercredi, l'année mercredi pour avoir un prix d'accord qui sera signé finalement à Bamako. Mmh. Mais mon frère a dit quelque chose, que le dernier mot revient
au peuple malien.
Mais il faut aussi dire des choses aussi à nos politiciens. Quand on négocie, on lâche des choses. Négocier, ce n'est pas seulement aller imposer ce qu'on a. On lâche des choses. Et je pense qu'il faut aussi qu'il prépare les populations à ce état de fait.
Alors aujourd'hui, cette déclaration signée entre le gouvernement malien et les 6 groupes armés devant la médiation dit que toutes les parties doivent s'abstenir de tout acte ou propos provocateur. Aujourd'hui, on parle de propos. Macron, est-ce un fait nouveau dans ce processus?
Tout acte ou propos est provocateur. Moi, non. D'abord, je n'aime pas trop le terme que vous avez prononcé tout de suite, à savoir cette petite victoire. En matière de négociation, moi, je n'aime pas ce terme-là.
Donc c'est une grande victoire.
Voilà. Non, ce n'est même pas une victoire. Je pense que c'est une avancée. C'est une avancée pour les deux parties. Mais parler de victoire d'un
camp, posé une question.
D'un camp au détriment d'un autre peut également poser quelques frustrations. Quoi. Donc, j'aime pas trop ce mot-là.
D'accord.
Bon, maintenant, quant à la suite, votre question.
Propos ou acte provocateur.
Bon, c'est pas un fait nouveau.
Est-ce que c'est pour museler tout le monde?
En fait, je crois que c'est bien ça. C'est pour permettre quand même aux négociations d'avancer. Parce que pendant qu'on négocie et que d'autres se mettent à parler, bon, il peut y avoir des propos souvent contradictoires qui peuvent amener à jouer sur le bon déroulement des négociations. Donc que tout le monde s'abstienne de parler d'abord et qu'on laisse les deux parties sous la médiation, sous l'emprise de la médiation maintenant, faire leur travail. Et certainement peut-être à la fin de cela, bon, maintenant on peut se permettre de parler et d'une même voix. Voilà.
Hakim. Si vous permettez, cette phrase ne date pas de maintenant. Dans la feuille de route, déjà, ça y est, en bonne place.
De Ouaga.
Qui a violé? Non, pas de Ouaga. La première rencontre à Alger, la feuille de route qu'elle est sortie, la feuille de route de travail, cette phrase était en bonne place. Qui l'a violée? C'est le MNLA et ses alliés. Donc maintenant, ils ont besoin de souffler. Et c'est pourquoi ils ont suscité cet accord et nous attendons. C'est eux qui le violeront et ça. Ça les mènera à leur perte.
Mais, en fait, je pense que la mission a compris beaucoup de choses. D'ailleurs, on a interdit aux différents groupes, aux différentes délégations, de parler à la presse. Mais malheureusement, on ne peut pas continuer à faire ça. Ça, c'est une époque de tout temps. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi, je viens ainsi là-dessus. Personne n'a un prétexte pour se dérober. On va aller au fond. Et là, c'est le plus important. Et les prétextes, on a un accès à faire sur le terrain. Ces gens vont s'abstenir de parler pour ne pas dire dont l'autre l'autre a dit, ah, il m'a provoqué. Mais que les gens, ils ont tourné en rond, ils ont tourné pendant 4 rounds. Aujourd'hui, c'est clair, on a dit ça là. Le soir, il faut aller au fond et on va discuter de point en point. Et je pense que c'est le plus important. Quand vous dites qu'il y a une victoire de la médiation, sa victoire ne sera effective que lorsqu'on aura un accord global signé et accepté par la majorité des populations, autant du nord que du sud. C'est très important, il faut le signaler.
Draman a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Il dit il faut que nos autorités lâchent du lest. hein, qu'on accepte quand même de faire, d'aller vers des compromis. Oui, on est bien d'accord d'aller vers des compromis, mais la ligne rouge tracée par le gouvernement reste toujours de vigueur.
Mais écoutez,
cette ligne rouge-là...
Elle n'a pas été violée.
Non, je n'ai pas terminé. J'ai dit, c'est vrai, il peut y avoir des compromis, mais la ligne rouge... je veux qu'on soit précis là-dessus, c'est que cette ligne rouge-là, alors, est le point de vue du peuple malien. Et comme Hakim l'a dit,
alors, quand
jamais
on,
lâche, on lâche du lest...
Je vais être clair. Quand on négocie, ça veut dire quoi? J'ai fait la concession, je suis de position, je voulais un peu, parce qu'en fait, on ne peut pas négocier en laissant chacun sa position, il n'y a pas de négociation à ce moment-là. Et parce que je vais vous dire aussi, c'est
oui,
pas
la,
parce que...
Mais la lune,
non,
la
mais
lune
écoutez, il y a un problème.
Elle est non négociée.
Alors,
jusqu'à après le compteur, les trois choses ont été acceptées. Le Mali, c'est un pays laïque, tout le monde a accepté cela.
L'intégrité
territoriale est inviolable. Mm-hmm. Et ensuite, il n'y a pas de fédéralisme. Mm-hmm. Tout ça a été négocié, et tout ça a été accepté. Je pense que les citoyens, nos leaders politiques, comprennent cela, qu'il faut aussi faire le constat d'un échec d'une gouvernance au Mali. Et là, c'est réel. Qu'il soit au nord ou au sud, il y a eu le constat de l'État malien qui a existé de 1960 en 2012 a échoué. C'est pourquoi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir, s'il y a une guerre au sud, à Kayou, à Kseou, c'est aussi normal parce que la condition de vie dans la population dans cette localité est quand même assez. Bon,
également, vous avez touché du doigt.
On va permettre à Hakim de toucher place deux mots.
Il a touché du doigt. Moi, je suis sûr, c'est le
moment qu'on est si. Il a touché du doigt. Vous avez parlé des hommes politiques.
Voilà.
Moi, je m'interroge. Le Mali, aujourd'hui, se trouve dans une situation très difficile par rapport à ce problème du Nord. La majorité présidentielle, on n'entend pas parler. L'opposition, on n'entend pas parler. Et c'est le moment de faire... Je pense que c'est le moment où la majorité et l'opposition doivent se resserrer les rangs et d'aller ensemble pour soutenir quand même ce gouvernement qui se trouve aujourd'hui dans des difficultés par rapport à ce problème du Nord.
De la Nouvelle République.
Bon, c'est pas pour soutenir le gouvernement, mais... Moi, je pense que l'opposition est audible. Mais ce que je voudrais ajouter à ce niveau, c'est que comme c'est vrai qu'il faut lâcher des choses, tout ce qui a trait au développement, pas que des régions du Nord.
Du tout Mali.
Du Mali.
Voilà.
Kayes, Nioro, tout ça, ils en ont besoin.
Ouais. Alors quand le président...
Moi, je me retrouverai dans un accord où quand on parle de développement, ça va être autant à Kidal qu'à Ségou, etc.
Soit Ségou.
Alors, les lignes rouges, selon le président Ibeka, c'est les trois points. L'intégrité du territoire et la laïcité. Et à partir du moment où ces aspects sont respectés, il dit tout est négociable. Est-ce que c'était pour préparer l'État, la population à toutes les possibilités toutes les concessions?
Non, je pense que, bon, il y a aussi, on ne finirait pas le dire, on a eu une mauvaise communication sur la question parce qu'il y a eu trop de cachotterie autour d'un document qui pouvait être expliqué sous une langue. Il faut expliquer ça aux gens. Il faut que les gens comprennent. Quand on négocie, c'est pour lâcher ici, attraper là, il faut toujours ça. Mais ce qu'il faut aussi dire, il y a aussi des thèmes qui ont été glissés dans le texte, qui remet tout en cause. Quand on voulait faire des régions, bon, il faut tenir compte aussi des spécificités de chaque région. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine solidarité plus agissante pour Kidal, pour Gao, tout à cause des difficultés climatiques. Mais il faut aussi qu'on ait des termes qui renvoient à une certaine priorisation de ces régions. Priorisation de ces régions par rapport aux autres. Comme il a dit, il faut qu'on ait un chemin de développement harmonieux, qui tient compte des spécificités de chaque région, des avantages, des atouts et des difficultés de chaque région et qu'on ait un développement harmonieux pour l'ensemble du peuple du territoire national. Mais le plus important, et je reviens là-dessus, qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'on est en train de négocier. Et quand on négocie, il y a toujours des difficultés, des péripéties. À chaque fois, on peut avoir, sur une question, on peut lâcher ici un élément, l'autre côté, on gagne là, mais il faut qu'on ait à l'esprit qu'on n'aura pas tout ce qu'on a, on veut. Certains veulent même tout rejeter. Quand le préaccord est mauvais, non. C'est un document de travail, il fallait l'amender, l'améliorer et aller faire un accord. Mais avec la position que certains points politiques tiennent et certaines subventions sur la société civile.
Notamment de l'opposition.
Non, là, ce n'est pas grave. C'est une prétendue association de société civile qui ne sont que des politiciens qui sont un peu divisés dans les partis qui sont tous dans une société pour se faire une place. Disent, là, je suis pas d'accord.
Alors, cette question sur Alger s'achève ici. Nous allons observer quelques secondes de pause avant la suite de cette émission.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
22 radios partenaires, c'est le nombre de radios donc qui retransmettent soit en direct ou bien en différé cette émission, ainsi que toutes nos productions journalières. Alors, nous avons fini avec le chapitre sur Alger. Nous entamons donc ces deux volets, la conférence des donateurs de Bruxelles et une question sur l'immigration. Nous sommes avec trois confrères de la presse, Dramane Alou Kone, président de la Maison de la Presse, mais également directeur de publication du journal L'Indicateur du Renouveau, Makan Konaté de la radio Maliba FM et Hakim Maïga du journal La Nouvelle République. Alors, la conférence de Bruxelles a décaissé pratiquement 90% de ce qui doit être donné. Dramane Alou?
Ah, mais il y a la boule de chiffres qui circule. Hein. Mm. On parle par exemple de 52%, de 72%, de 90%. Mm. Bon, c'est vrai qu'il y a une cacophonie autour de cette question-là.
C'est pas clair.
Et deuxièmement, moi, il faut. Ça, c'est, là, je dis ça aux Français. Ils ont dit qu'il y aura une traçabilité des fonds qui vont entrer à l'UE au Mali.
Une cellule même qui sera créée.
Il y a un site qu'on a lancé, mais pour le moment, on n'a aucune traçabilité. On ne sait pas que l'argent est venu parce qu'aucun n'est pas sur le terrain. Malheureusement, c'est toujours le cas depuis Matouzala, mais on peut dire ainsi. Le Mali, on parle des gros chiffres à la télé, on voit des belles annonces, mais sur le terrain, on ne voit rien. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on nous explique où va cet argent-là. Parce que quoi qu'il en soit, c'est nous qui allons rembourser, sans nos enfants, sans nos petits-enfants. Et si dans ce cas, le peuple malien ne peut plus continuer à être volé, à être trompé. Si les fonds ont été décaissés, ils ont été décaissés pour quel objectif, pour quel usage, et quels sont aujourd'hui les tombées réelles pour la population à la base. Malheureusement, on a fait la grande conférence et j'ai bien apprécié les certains exposés auxquels j'ai assisté, mais je souhaite qu'on explique ça de manière dans nos langues nationales. Parce que ça, la question, on ne peut plus continuer à diriger des gens à leur insu. Quand je prends une décision au nom du peuple malien,
est-ce que le peuple s'intéresse?
Non, parce qu'en fait, on a fait une affaire de lettrés. Je donne un exemple, le conseil des ministres, on fait le contrat de protection en ce moment en français. Et moi qui n'ai pas été à l'école, pour moi, c'est affaire des gens initiés entre eux, une secte qui sont formés à notre détriment. Or, nous sommes l'émanation de ces peuples. Et quand on doit aller faire la campagne, ce n'est pas en France qu'on fait la campagne, on fait la campagne en Bambara. Parce qu'en ce moment, on a besoin de peuples. Il faut qu'on ait d'être malhonnête. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme le Sénégal sont forts, c'est que tout ce qui se dit en français, c'est dit en Wolof. Et je pense aussi qu'on peut tirer les leçons comme ça. En ce moment...
Il peut y avoir l'unanimité sur une langue nationale?
Non, il faut toujours imposer une langue.
Au détriment des autres?
Oui, parce qu'il faut aussi une discrimination positive. Je donne un exemple en France. Le franc n'est pas la seule langue de la France, mais c'est la langue qu'on a imposée à tout le monde, même si les gens ont des dialectes locales qui leur permettent de communiquer entre eux. Je pense, il faut avoir un train d'union entre tous les peuples, entre tous les composants de notre société, à travers une langue nationale. Et c'est un élément important de développement.
D'accord.
Malheureusement, nos populations, nos dirigeants, ainsi que la société civile malienne, qui est ce qu'elle est, ne font rien pour arranger la situation.
Mmh. Alors, la lenteur dans le décaissement des fonds de Bruxelles, est-ce que les scandales, la répétition de corruption ont gêné quelque peu le décaissement?
Oui, je pense. Parce qu'il y a eu un premier problème. L'achat de l'avion présidentiel et du matériel militaire. Trois ministres du gouvernement ont été sortis. Bon, ça a été une première sanction. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Parmi ces trois ministres, il y a un qui a été nommé à la présidence avec rang de ministre. Mais il fallait mener d'abord une enquête judiciaire pour essayer de situer les responsabilités. Et si faute il y en a, et que les coupables soient punis et qu'ils remboursent notre argent. Parce que c'est l'argent du contribuable malien. Au lieu de le faire, un se retrouve à la présidence. Les deux autres sont là tranquilles. Bon, on ne comprend absolument rien par rapport à la bonne gouvernance au Mali. Donc c'est vraiment un problème. Et deuxièmement, on dit que le Mali a un taux de croissance de 7,8%. 7,8%, est-ce que ça se répercute, ça a un effet sur le quotidien des populations? Ça ne va pas. En réalité, ça ne va pas au Mali. Ça ne va pas à Bamako, à fortiori dans les régions. Donc les gens souffrent. Effectivement, il va falloir que les FMI et la Banque mondiale soient vraiment pointueux là-dessus, qu'on nous dise concrètement où va effectivement l'argent du Mali. Hmm. Nous demandons de l'argent, cet argent qui doit être investi, ça a été investi dans quoi et quel a été son impact sur la population. Donc il faut que ça laisse, ça donne une certaine traçabilité et que l'on essaie de voir si vraiment ça ne va pas, que les bailleurs de fonds le sachent et que la population également le sache. Draman a parlé également d'information des populations en langue nationale. Déjà, l'URTM donne ces informations
dans les différentes langues.
Mais je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que... Mais c'est cette même URTM également qui... Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a souvent des débats intéressants et qui ne sont pas diffusés en langue nationale. Des débats qui portent, par exemple, sur la santé, des débats qui portent sur l'économie, etc., qu'on va tenir en français. Et quand on le tient en français, ça ne concerne qu'un groupe de personnes bien déterminées. Je voudrais parler des illettrés. Donc, il va falloir tenir ces débats-là en langue nationale. Privilégier quelques langues nationales. Il y a le Sonra, il y a le Bambara, il y a ces langues-là. Et on peut tenir des débats dans ces langues.
Quitte à les imposer.
Voilà.
Hakim.
Merci. À ce sujet, moi, je vais m'apesantir sur l'aspect communication. C'est vrai qu'il y a un déficit de communication autour de tout ce que se fait. Mm. C'est pourquoi là, il y a beaucoup de rumeurs. Parce que quand les gens ne savent pas l'utilisation qui a été faite de telle
période à telle période,
ou bien de décès, c'est normal que les gens cherchent à savoir. Et c'est normal que souvent, il y a même des rumeurs. Si cela était, là vraiment il y aura la confiance entre les gens, mais dès que si le déficit continue, ça va toujours être comme ça, de scandale à scandale, qu'ils ont. C'est vrai, ça peut être vrai ou pas, mais le déficit est là.
Alors, Draman Alou Kone, un mot sur ces dons de Bruxelles et la bonne gouvernance au Mali avant de clore ce chapitre.
Bon, je vois qu'on a assez discuté sur ça, mais le plus important, il faut souligner ça. Même pour rapport aux questions des scandales qui ont émaillé l'année 2014, je souhaiterais aussi qu'il parle qu'il y a aussi la violation de la présomption
d'innocence.
Ça, c'est vrai. On ne peut pas aussi connaître quelqu'un sans qu'il soit jugé. On a dit que ces trois personnes ont été dans le dossier, mais ça n'a pas dit qu'ils sont coupables ou accusés. Jusqu'à présent, la justice n'a pas prononcé une accusation contre quiconque. Au-delà de ça, ce qu'il faut, je pense qu'on va se répéter. Et aujourd'hui, le peuple a droit à l'information. C'est un droit constitutionnel, il faut le respecter. Et pour qu'on puisse avoir. Parce qu'en réalité, c'est que quand on écoute les justices, parfois, ils ont besoin de peuple pour qu'ils soient, dirais eux, les poussés. Mais malheureusement, quand le peuple a besoin, il n'y a pas un retour. Aujourd'hui, pour avoir un développement global, il faut que tout le monde soit au niveau d'information. En ce moment, la santé des actions sera partagée et on peut aller vers l'avant.
Alors, nous passons donc à la dernière partie de cette émission. Un mot sur la migration au Mali. Alors, la contribution de la diaspora est estimée aujourd'hui à pratiquement 8% du produit intérieur brut au Mali. Draman Alou, quelle pourrait être dans les jours à venir cette contribution de la diaspora, en hausse ou en baisse?
Bon, je vois qu'aujourd'hui, le taux d'immigration est assez faibli parce que là où on va aussi, ça ne va pas là-bas. Et il y a aussi des nouveaux phénomènes. Avant, les professions ou les activités qu'on menait en France sont aujourd'hui tenues par des pays de l'Est. Mm. Les Polonais, les Bulgares sont venus envoyer nos prébendes là-bas en France.
La main-d'œuvre a changé de main.
Mais aujourd'hui, c'est pourquoi on a moins de moyens dans ces pays-là aussi. Il faut avoir un certain niveau de formation pour amener certaines activités en Europe à cause du nouveau développement. Mais ceci dit, il y a un problème qu'on a toujours souligné depuis plusieurs années, c'est transformer ces flux d'argent vers le Mali en fonds d'investissement. Parce que jusqu'à présent, c'est de l'argent qui arrive pour la consommation uniquement. C'est vrai que quand la consommation est bonne, ça va booster le taux de croissance. Ça, c'est évident, c'est l'un des moteurs de la croissance. Et je vais même passer par l'occasion pour dire à Maca, 7% du taux de croissance ne veut rien dire que sur la durée. Et puis les gens oublient, moi je pense qu'il y a un changement notoire dans nos habitudes. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand on était jeune, un jeune qui avait 5 pantalons était un jeune primé. Aujourd'hui, chaque gamin a moins 20 pantalons, 30 pantalons, chacun a un téléphone, chacun a une moto.
Mais ça ne va pas.
Il y a une amélioration nette au niveau de vie qui fait qu'aujourd'hui, la réalité qui témoigne de la réalité des moyens. Ceci dit, je vais revenir à ces flux d'argent qui viennent de l'extérieur. On pourra mieux organiser ces flux en les transformant en fonds d'investissement pour les locataires vers lesquels elles sont dirigées. Je donne un exemple. Au lieu qu'on a payé des sacs de riz, des sacs de mille pour une famille, si on pouvait investir ces montants dans un champ et que ce champ produit, au bout de 2 ans, on n'a plus besoin d'argent de Paris pour nourrir cette famille-là. Malheureusement, jusqu'à présent, l'État et les économistes du monde ont toujours témoigné de cela. On a dénoncé le fait que ces flics d'argent ne sont plus que des moyens de subsistance pour des familles. Il faut le transformer en fonds d'investissement pour ces mêmes familles pour qu'elles puissent avoir une autonomie financière au bout de quelques temps. Mmh. Et je crois que c'est le travail de l'État, ça a lui de transformer tous les atouts que le pays dispose en moyens de développement. Malheureusement, on ne fait que parler, les gouvernements se succèdent, le régime se succède,
il n'y a pas de changement.
Le constat est là et il est amer.
Makan Konaté de Maliba FM, un mot sur l'immigration.
Oui, Draman, si votre situation s'est nettement améliorée, je crois que la mienne s'est progressivement dégradée. Mais je vais laissez-moi, s'il vous plaît. C'est que il y a un syndicaliste qui m'a dit ça, un ancien secrétaire général de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, m'a dit: Makan, si tu veux savoir comment le pays va, il dit, il faut surtout regarder du côté du secteur informel. Il dit, ces vendeuses de mangue, ces vendeuses d'oranges, de ceci et de cela qui sont dans le secteur informel, quand ça va, tout va bien. Mais quand ça ne va pas chez ces personnes-là, ça veut dire que le pays va mal. Et aujourd'hui,
mais moi,
vous m'arrêtez dans mes
élans.
On va laisser terminer.
Voilà.
Aujourd'hui, au niveau du secteur informel, ça ne va pas. Quand vous voyez ces femmes qui se lèvent à 4h du matin, des vendeuses d'arachide, à 4h du matin, pour aller acheter de l'arachide, faire le rang pour faire griller ces arachides, ensuite les porter sur la tête et aller donner ça à crédit, ça veut dire que ça ne va pas.
Hakim,
moi, ce que je félicite nos compatriotes de l'extérieur qui subissent tout et qui ne sont même pas assistés souvent pour faire ce qu'ils font, pour faire ce qu'ils nous apportent tous les jours.
Est-ce que vous faites allusion à l'Angola?
Partout. Partout, c'est la même chose. Nos ambassades, souvent, ne servent à rien. Si un compatriote a un problème, soit les autres, la solidarité se forme autour de lui, il meurt. Mmh. Les ambassades ne servent à rien.
Moi, je reviens à ce qu'il a dit. C'est un vendeur de dash là. Aujourd'hui, elle a un téléphone. Elle a moins 20 basés à la maison. En fait, il faut que les gens soient dans l'utile. Or, le Mali, les Maliens sont dans l'apparence. Je souhaite que Kétanou aura l'occasion de nous inviter encore autour des questions de développement. Donc, je sais pourquoi. Parfois, il y a un mouvement.
On aura l'occasion.
Si tout va bien, nous serons là pour débattre également de cette question de développement. Pour l'heure, le débat s'achève. Le forum de la presse prend fin. Donc, ici, nous étions avec les confrères de la presse. Draman Alou va rester jusqu'à la fin de cette émission. Nous parlions de pourparlers d'Alger. Mais également, un mot a été dit sur la migration et également sur la conférence des donateurs de Bruxelles. Enfin, vers du Mali, nous étions avec Draman Alou Koné, Draman Alou qui est le directeur de publication de l'indicateur du renouveau et de
Renouveau
FM. Maka Konaté était également avec nous de Maliba FM. Hakim Maïga était également là. Hakim est le directeur de publication de la Nouvelle République. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Petit Ndiara était à la mise en onde et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.